Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Disons merci au Seigneur qui est fidèle. Disons merci au Seigneur qui, dans sa grâce, permet que nous soyons là ce soir. C'est parce qu'il est fidèle dans ses promesses que nous sommes rassemblés ici ce soir. C'est lui qui a promis d'assurer notre sécurité. C'est lui qui a promis de veiller sur nous jour et nuit. Et il a fait. Donne-lui toute la gloire pour ta présence. Dis-lui merci Seigneur parce que je suis dans ta présence. Et je suis convaincu que tu es là parce que tu as dit, Seigneur, que tu sièges au milieu de la louange. Dis Seigneur, personne n'est jamais venu dans ta présence et est rentré tel qu'il était. Seigneur, je crois que pendant cette soirée, je vais tirer bénéfice de ce que tu as à me communiquer ce soir. Que ton Saint-Esprit dispose mon cœur pour recevoir ce que tu as à me dire. Que ton Saint-Esprit dispose mon cœur pour recevoir ta parole. Merci Jésus, parce que tu es au milieu de nous. Merci Jésus, parce que c'est toi qui règnes en maître absolu. Merci Jésus, d'ouvrir notre capacité d'entendre mon. Merci surtout, Seigneur, de mise en pratique de ce que tu veux nous communiquer ce soir. Je veux, Seigneur, notre Dieu, être cet instrument entre tes mains. Que ma chair, Seigneur, se taise. Et que toi seul, Seigneur, tu parles à ton peuple maintenant. Merci, Seigneur, d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Dites à votre téléphone, ne me perturbe pas. Je n'ai pas demandé de parler au téléphone, mais de le mettre sur vibreur ou sur silencieux. Dis-lui, ne me perturbe pas. Bienvenue dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu qui permet que nous retrouvions encore ici ce soir pour cet autre moment d'édification. Hier soir, nous avons abordé le thème « Comprendre tes échecs ». Parce que pour oser recommencer, il est nécessaire de comprendre nos échecs. Pourquoi est-ce qu'on a échoué? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on échoue? Et le deuxième thème que nous abordons ce soir, c'est « Identifie tes forces et tes faiblesses ». Identifie tes forces et tes faiblesses. Il est important de relever que, en tant qu'être humain, nous tous, nous avons des forces, mais nous avons également des faiblesses, n'est-ce pas? Et dans le processus du recommencement, il est important de savoir qu'est-ce qui constitue mes faiblesses. Quels sont les points de chute? Qu'est-ce qui m'empêche véritablement d'avancer? Mais aussi d'identifier quelles sont mes forces. Qu'est-ce que j'ai comme atout? Qu'est-ce que j'ai comme capacité qui m'aide à avancer véritablement? Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Pouvoir identifier ses faiblesses pour les surmonter et identifier ses forces pour les valoriser. Et ceci va nous aider dans le processus du recommencement dans lequel nous sommes engagés. Je voudrais que nous commencions par nos faiblesses. Le dictionnaire définit la faiblesse comme étant un manque, peux être la force, l'intelligence, la puissance, ou la ressource dans un sens figuré. C'est manquer de talent ou de faire de force morale. Et nous allons nous rendre compte aussi que dans la Bible, il y a plusieurs cas de personnes qui sont relevées, qui avaient des faiblesses. N'est-ce pas? Et la faiblesse de certaines personnes, ça peut être l'argent. Il y a des personnes, il suffit qu'ils voient la couleur d'un argent pour changer, n'est-ce pas? Hein? Il y a des personnes comme ça. Nous en avons un cas dans la Bible. Il s'agit de qui? Judas Iscariote. Judas avait un faible pour l'argent. Il était faible devant l'argent. Et ceci l'a poussé à trahir son maître, à le vendre, à faire ce que peut-être n'avait pas prévu de faire intérieurement. Il a vendu son maître parce qu'il avait ce faible. Quelle est ta faiblesse? Est-ce que ton aussi n'est pas une chose? C'est une faiblesse pour toi. Est-ce que tu n'as pas abandonné un certain nombre de valeurs et de principes que tu avais à cause de l'argent? Est-ce que devant l'argent, tu n'as pas paniqué au point de passer à côté des objectifs que Dieu avait fixés pour toi? Si tel est le cas, c'est que l'argent constitue une faiblesse pour toi. Chez l'autre personne, c'est le sexe. N'est-ce pas? Dès qu'ils ont en face d'eux une personne de sexe opposé, ils deviennent faibles. Ils deviennent capables de quoi que ce soit. Même parler, ça devient compliqué. Et on a dans la Bible quelques cas de figure. Le fils d'Eli, le sacrificateur, ils étaient faibles devant les femmes. Et nous savons toutes les abominations qu'ils ont commises devant l'autel de l'Éternel. Pourquoi? À cause là qu'ils avaient. Nous avons également le cas de Samson. Nous savons comment Samson est fini, n'est-ce pas? À cause d'une femme. Il y a des personnes aussi comme ça. Est-ce que de voir leur destinée, leur projet s'arrêter à cause ex? Ça peut être une faiblesse également. Nous avons également des personnes qui ne résistent pas devant la nourriture. N'est-ce pas? Quand ils sont en face d'une table bien garnie, ils commencent à paniquer. Il y a une personne dans la Bible qui allait jusqu'à vendre son droit d'aînesse à cause d'un plat de nourriture, d'un plat de lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse. Et nous connaissons ce que ça a eu comme dans toute sa vie. Il y a des personnes qui sont capables de le faire. À cause d'un morceau de pain ou à cause d'un plat de nourriture, ils sont capables de toute forme de compromission. Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont les choses devant lesquelles est-ce que tu n'arrives pas à tenir et à résister? Il est important pour toi de pouvoir identifier ces choses-là. Et je voudrais que dans ton livre, ou bien dans ton cahier, tu puisses compter. Non. Prends une minute pour noter. Dis: Seigneur, révèle-moi mes faiblesses. Note-le quelque part. Ces faiblesses, très souvent, vont t'amener au découragement. Et à baisser les bras. Situation où le Seigneur. C'est pourquoi il est important que tu les relèves, parce qu'il faudra que tu traites ces faiblesses dans ta vie. Si tu veux avancer, si tu veux oser recommencer sur des bases qui sont bonnes, il faudra bien que tu traites ces faiblesses-là dans ta vie. Le deuxième point, ce sont nos forces. Et parmi nos forces, nous avons les dons spirituels et les talents. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur les dons spirituels. Pour vivre la vie spirituelle et la vie dans la dimension à laquelle est-ce que tu t'appelles, ce n'est pas avec notre intelligence humaine,
nous allons vivre cette vie, mais c'est avec les capacités surnaturelles que Dieu nous donne que nous pouvons mener cette vie. C'est pourquoi Dieu a pris des dispositions pour que chaque personne qui vient à lui, par le suite de la nouvelle naissance, et qui est remplie de son Saint-Esprit, reçoit des dons spirituels. Reçoit des dons spirituels qui l'aident à rendre ministère, qui l'aident à faire ce pourquoi est-ce que le Seigneur l'a appelé. Et ce pourquoi est-ce qu'il est sur la terre. Et ce don spirituel, c'est une ressource que le Seigneur a mis à notre disposition pour que nous entrions dans son plan et que nous le servions efficacement, aussi bien dans notre vie académique, professionnelle, familiale, dans tous les aspects de notre vie. Nous avons besoin de ces dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 10, comme vous avez pu le lire, il y a mentionné 9 dons spirituels que nous pouvons regrouper en 3 grandes catégories. 9 dons spirituels que nous pouvons regrouper en 3 grandes catégories. La première catégorie, ce sont les dons de la parole ou les dons de révélation. Les dons de la parole ou les dons de la révélation. Il s'agit ici de la parole de sagesse. La parole de sagesse. Et ce don qu'est la parole de sagesse se matérialise par une révélation soudaine d'une solution à un problème ou une situation complexe. C'est une parole qui tombe à l'instant T et qui a pour but d'aider et d'exhorter son prochain. Nous comprenons, bien aimé, ici, qu'il ne s'agit pas de la sagesse qu'on a acquise dans les études. Il ne s'agit pas de la sagesse humaine, mais c'est un don spécial du Saint-Esprit de Dieu. Et il va arriver des moments dans votre vie où vous serez dans une situation un peu comme deux murs. Et une parole viendra dans votre vie débloquer la situation. Ça peut être quelque chose qui vient de vous, ou bien quelqu'un qui vous dit une parole qui débloque la situation dans laquelle est-ce que vous trouvez. C'est une parole de sagesse. Nous allons voir quelques cas, quelques exemples dans la Bible. Je voudrais que nous voyons le livre dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 25. 1 Roi, chapitre 3, le verset 25. C'est une histoire de Salomon. Et le début de l'histoire, c'est deux femmes qui sont en train de se disputer un enfant. Dans la nuit, il y a une femme qui s'est couchée sur son enfant et son enfant est décédé. Et le matin, elle a pris l'enfant de l'autre femme et ils sont allés devant le roi Salomon parce qu'ils se disputaient l'enfant. Les deux femmes disaient, c'est mon enfant, et que c'était l'enfant de l'autre qui était décédé. Maintenant, devant Salomon, il y a une chose que le Seigneur lui a révélée. Ça, c'était une parole de sagesse. Au verset 25. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Cette parole de sagesse qui a été lâchée a permis de trancher la situation. Parce que le verset qui suit nous dit que la femme qui était la mère de l'enfant, ses entrailles ont frémi au-dedans d'elle. Et elle a dit non, ne faites pas de mal à cet enfant. Et on a su que c'était son enfant. Ça, c'est une parole de sagesse qui a été donnée devant cette situation. Il y a également, dans une certaine mesure, le cas de Élisée et de Naaman, le Syrien. Lorsqu'il arrive, Naaman arrive chez Élisée, étant malade. Élisée ne l'a pas vu. Élisée ne l'a même pas touché. Mais Élisée seulement dit, va et plonge-toi cette fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Cette simple parole, lorsqu'elle devait être appliquée, devait résoudre le problème d'Élisée. De Naaman. C'est ça la parole de sagesse. Et il est question de voir, est-ce que tu as cette parole de sagesse comme don? Et ma prière, c'est qu'à l'issue de cet enseignement, chacun puisse identifier ses dons et même les talents qu'il a reçus, parce que c'est ça qui va vous aider à recommencer et même entrer dans votre ministère véritablement. Le deuxième don qui entre dans les dons de la parole ou bien de la révélation, c'est la parole de connaissance. Dieu communique surnaturellement à une personne une connaissance concernant la situation de quelqu'un ou un fait caché à notre perception naturelle. En fait, la parole de connaissance ici, c'est se manifeste quand vous êtes devant une situation et il y a des choses cachées derrière la situation qui se passe. Dieu vous révèle qu'en réalité, telle situation à laquelle vous faites face, le problème se trouve à tel ou à tel endroit. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est malade. La personne a fait le tour des hôpitaux. Et pendant que vous êtes en train de prier pour cette personne, Dieu vous met par exemple à cœur, dit à cette personne de renoncer à tel engagement qu'il a pris à telle occasion. C'est une parole de connaissance qui vient et aide cette personne. Et dès que la personne a renoncé à ça, la maladie disparaît vu de cette personne. C'est la parole de connaissance. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans Acte 10, le verset 19 à 20, pour voir un exemple de cette parole de connaissance. Acte 10, 19 à 20. Le début de l'histoire, c'est que le centenier Corneille avait envoyé des personnes pour appeler Paul, Pierre. Et pendant que ces hommes étaient en chemin, on nous dit que Pierre était dans la chambre haute. Il était en train de prier. Et il recevait des choses, il recevait des visions que lui-même il n'arrivait pas à expliquer ce qui était en train de se passer. Et puis, le Seigneur lui dit une chose à partir du verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il a reçu cette parole de l'Éternel et il est descendu voir les hommes que Corneille avait envoyés pour partir avec eux. Il a reçu une parole de connaissance de l'Éternel pour la suite de ce qui devait se passer. Le troisième, dans le même don de la parole ou bien de révélation, c'est le don de discernement des esprits. Il permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature de l'esprit qui inspire ou agite une personne. Le don de discernement, c'est savoir quel est l'esprit, quelle est la nature de l'esprit qui est en train d'animer une personne. Ça permet donc de discerner, est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui agit? Est-ce que c'est l'esprit satanique qui est en train d'agir dans la vie de cette personne? Dans Acte 16, nous avons un exemple. C'est la femme qui était conduite par un esprit de Python. N'est-ce pas? Et pendant que Paul était en train de prêcher, la femme était devant eux, criant, écoutez ceci, ce sont des serviteurs de l'Éternel. Dans Acte 16, à partir du verset 16 et 18. Et le texte nous dit qu'à un moment, Pierre s'est tourné. Paul s'est tourné, a commandé à cet esprit, libère cette femme. Pourquoi? Parce qu'il a su discerner qu'en réalité, l'esprit qui habitait cette femme n'était pas l'esprit de l'Éternel. Dieu nous donne aussi la capacité de discerner les esprits qui habitent des personnes. C'est un don que le Seigneur nous fait. Au point où, lorsque nous regardons des personnes, nous pouvons savoir si c'est l'esprit de Dieu qui l'anime ou bien ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de Satan. Certains d'entre vous ont ces dons. D'autres le savent, même s'ils ne le mettent pas véritablement pour le service, pour le ministère. D'autres peut-être ne le savent même pas. Le deuxième grand groupe des dons, ce sont les dons de puissance. Et parmi les dons de puissance, Il y a le don de foi. Il y a le don de foi. Ce n'est pas la foi ordinaire. Comme chaque chrétien peut dire j'ai la foi. Mais c'est un don particulier que le Seigneur met en vous. Qui vous permet de manifester une confiance et une détermination que l'homme ordinaire ne peut pas. C'est ça le don de foi. Je voudrais que nous ouvrons la Bible dans Genèse. Genèse 22. On va voir un exemple. Genèse 22. Versets 5 à 8. Il est écrit ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham est en train d'aller sacrifier son fils Isaac. Et à un niveau, il dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici. Je vais continuer seulement avec le petit. Mais la fin de la phrase nous dit quelque chose de très très pertinent. C'est qu'il dit que nous irons adorer là-bas et nous reviendrons. Pourtant, il savait qu'il allait sacrifier son fils. Comment peut-il affirmer qu'il va revenir avec son fils? Ça ne suffit pas. Regardons encore la suite. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Au verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Il fait suffisamment confiance en Dieu. Il sait que là-bas, à la montagne, Dieu va pouvoir. Parce qu'il a manifesté cette foi qui apporte des fruits. Dieu investit nos vies aussi de ce don. Et vous allez voir des personnes devant des situations. Devant des situations où naturellement les gens paniquent, eux ils sont sereins. Parce qu'ils ont reçu ce don de foi. Ils savent que le Dieu en qui ils ont cru interviendra et apportera la solution qui convient et au moment où il faudra. C'est ça le don de foi. Dans les mêmes dons de puissance, il y a le don de guérison. Son but est de secourir, consoler et restaurer ceux qui sont éprouvés par la maladie en montrant aux hommes que celui qui les guérit, c'est Jésus lui-même. Cela peut être par une prière ou encore simplement par une exhortation. Et nous avons un cas dans Luc 9, versets 32 à 34. Luc 9, 32 à 34. Vous y êtes? Écoutons ce que le texte nous dit. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, il vit la gloire de Jésus. C'est ça? Il vit la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparèrent de Jésus, Pierre leur dit, « Maître !» Non, je me suis trompé de texte. Luc 9. Regardons les versets 22 et 24. Non,
c'est pas ça. Je me suis trompé.
Mais dans le don de guérison, on reçoit quelque chose de précis en ce qui concerne la situation de la maladie de la personne. Et puis on aide la personne à sortir de cette situation. Mais ça peut également se manifester par l'exhortation, comme je disais. Quelqu'un qui vient vers vous et qui a une situation qui le préoccupe, véritablement, par une seule parole que vous dites à cette personne, la personne repart regaillardie, réconfortée. N'est-ce pas? La personne repart restaurée. L'esprit d'abattement avec lequel est-ce que la personne est venue, elle repart avec un autre esprit, un esprit beaucoup plus gai. Il y a donc des personnes qui ont reçu ce don de guérison et qui n'ont pas besoin de trop d'efforts pour apporter la guérison aux personnes qu'ils ont en face d'eux et la restauration dans les vies des personnes qui sont en face d'eux à cause de ce don qu'ils ont reçu. Il y a également le don de miracle. C'est le pouvoir accordé par le Saint-Esprit d'accomplir des actes puissants et surnaturels, tels que ceux de Jésus. Et nous rappelons que Jésus a dit à ses disciples que si vous croyez en moi, vous ferez des miracles bien plus grands que ce que j'ai accompli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons également accomplir des miracles. Et au premier siècle, les premiers témoins de Jésus l'ont expérimenté. Et quand vous allez dans Actes 19, versets 11 à 12, on nous dit que des gens prenaient des mouchoirs et des linges qui avaient touché l'apôtre Paul. Et ils allaient guérir les malades avec. N'est-ce pas? Ils allaient guérir les malades. On déposait ces linges sur les malades. Ils étaient guéris. Elle nous dit également que l'ombre de Paul, lorsque l'ombre de Paul couvrait les personnes qui étaient malades, ces personnes recevaient la guérison. C'est le don de miracle. Paul a fait ce que Jésus n'a pas fait, n'est-ce pas? Est-ce que l'homme de Jésus a guéri quelqu'un? Mais à cause de ce rôle que Jésus avait relâché, toute personne qui croit et qui est attachée à Christ peut faire des miracles au-delà de ce que Christ a accompli. C'est lui qui nous l'a dit. La troisième catégorie, troisième grand groupe, ce sont les dons d'inspiration. Ce sont les dons d'inspiration. Et dans ces dons, nous avons le don de prophétie. Le don de prophétie. Nous savons que prophétiser, c'est transmettre un message reçu de Dieu à une personne ou à plusieurs. Le Saint-Esprit utilise le vocabulaire, la connaissance, le tempérament particulier de celui qui exerce ce don. Mais le message naît d'une inspiration divine. La vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la parole de Dieu. Il se fait selon la mesure de la foi du prophète, selon Romains 12, verset 6. Et nous avons un exemple dans Actes 21, le verset 11. Actes 21, le verset 11. Vous y êtes? Quelqu'un peut nous lire le texte? Acte 21, 11. Je lis pour nous. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. C'est une prophétie qui a été annoncée au sujet de ce qui devait se passer dans la vie de Paul. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Paul a été lié. Cette parole vient de l'Éternel et elle est en accord avec la parole de Dieu. Une prophétie ne peut jamais être en désaccord avec la parole de Dieu si elle vient de Dieu. Il y a ce don de prophétie. Il y a le don de langue qui est différent ici de la capacité à parler plusieurs langues. Il est bien de le préciser. Qui est différent de parler à la fois le Mendjumba, le Ngomala et toutes les autres langues que vous connaissez. C'est différent. Mais c'est un don qui vient de Dieu et qui est une langue qui est spirituelle et mystérieuse. Qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Seul Dieu est capable de comprendre. Ou encore, celui à qui est-ce que Dieu a donné la capacité de l'interpréter pour comprendre cette langue-là. Ce don a plusieurs objectifs, tels qu'on peut le lire dans 1 Corinthiens 14, n'est-ce pas? 1. L'édification de la personne, n'est-ce pas? L'édification de la personne qui parle en langue et qui prie en langue. Ou l'édification du peuple qui écoute, mais à condition qu'il y ait une personne qui interprète, n'est-ce pas, cette langue qui est dite. Si elle doit être parlée en assemblée, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, de parler en langue là ne sert à rien, parce que ça n'édifie personne d'autre que vous-même. Il faut qu'il y ait un interprète. Et pour cette raison, Dieu également a donné un autre don pour compléter celui-là. C'est le don d'interprétation des langues. C'est la capacité donc que les personnes ont, n'est-ce pas, de pouvoir interpréter. Pendant que quelqu'un est en train de parler en langue, il y a une autre personne qui écoute ce que cette personne dit et peut traduire ça en une langue audible par tout le monde. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit donne comme équipement pour rendre au ministère. J'ai envie de te demander maintenant, c'est quoi ton don? C'est quoi le don que tu as reçu de Dieu? Si tu le connais, écris. Je ne connais pas, tout à l'heure on va demander à Dieu, n'est-ce pas, dans la prière, de nous révéler, n'est-ce pas, ces dons. Je précise que tous ces dons que le Seigneur nous a donnés doivent être mis en valeur au sein de l'Église. Pendant très longtemps, dans notre Église, nous avons méprisé, nous n'avons pas su valoriser véritablement ces dons spirituels. C'est pourquoi on pouvait avoir un certain équilibre dans la vie des communautés. Mais si on parvient à identifier les dons des uns et des autres, je vous assure, la communauté grandit à une dimension que nous ne pouvons pas imaginer. Parce que chacun se retrouve là où il doit être, et chacun couille dans son couloir désormais. Et on est efficace quand on est dans son couloir. Quand tu n'as pas le don de guérison, et tu te mets à te bousculer avec quelqu'un qui a le don de guérison, tu te mets à gêner cette personne. Il est important d'identifier son don, parce qu'à votre don, est lié au ministère auquel vous êtes appelé. On se comprend? À votre don, le don que le Seigneur vous a donné, le don que le Saint-Esprit vous a donné, est lié à un ministère que vous êtes appelé à accomplir. Et tous ces dons, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ. Deuxième ressource que le Seigneur nous a donnée, ce sont les talents. Ce sont les... Chacun d'entre nous a un talent que Dieu lui a donné. C'est quelque chose de naturel que vous pouvez faire sans trop d'efforts. Vous n'avez pas besoin de trop d'efforts pour faire cette chose. Ça vient naturellement. Qui a des talents ici? Ouais. Maintenant, il faut mettre en valeur ce talent. Illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a un tableau que j'ai demandé à un bien-aimé de venir avec. J'espère que je l'ai tenu dans le bon sens. Il n'a pas fait une école des beaux-arts, mais naturellement, il fait des tableaux. Voilà l'expression de son talent. Il n'a reçu aucune formation, mais naturellement, il fait ce genre de tableaux. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes également qui ont reçu ce genre de don et qui peuvent le mettre en valeur. Et ce tableau exprime d'une certaine manière ce que nous sommes en train de dire. N'est-ce pas? Vous voyez une personne qui est en train de transmettre un nombre de choses jusqu'au plus bas. Les plus grands doivent soutenir les plus faibles. On peut aussi percevoir comme la transmission de l'héritage de génération en génération. N'est-ce pas? Oui, il faut mettre en valeur les talents que vous avez reçus. Habib, tu me prêtes pour la publicité? Oui, je présentais juste le tableau pour montrer, pour illustrer en fait l'expression du talent de quelqu'un. N'est-ce pas? Vous avez également beaucoup de choses que le Seigneur a déposées en vous comme talent que vous pouvez exercer. Il faut mettre en valeur. Il y a une chose qui monte dans mon cœur depuis quelques temps. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous soupirons après le public, n'est-ce pas? Tout le monde veut un matricule. Et quand on n'a pas le matricule, on a l'impression qu'on n'a pas réussi sa vie. J'ai envie de dire à un moment que vous n'avez pas besoin de ce matricule. Vous pouvez être quelqu'un qui crée le travail et qui emploie des gens à partir des ressources que le Seigneur a mis en vous. Et ce qui monte dans mon cœur de plus en plus ces derniers temps, c'est de ne pas encourager mes enfants à être des personnes qui vont courir après le matricule de la fonction publique. Mais dans l'orientation professionnelle que je voudrais, ou bien académique que je voudrais leur donner, c'est qu'ils puissent s'auto-prendre en charge et être des personnes qui donnent plutôt le travail aux autres. C'est ça ma vision. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Je disais au frère qui a fait ce tableau, il est assis là-bas au fond, comme mon ami, à partir de ça, tu peux gagner ta vie. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas besoin de te former pour ça. Dieu te l'a donné. Quelles sont les ressources, les talents que le Seigneur a investis dans ta vie? Il faut pouvoir mettre en valeur ces talents. Si Dieu met en toi un talent, ou te fait un don, et que tu ne valorises pas, tu peux perdre ce don. N'est-ce pas? Il pouvait dire dans 1 Timothée, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, 14, « Ne méprise pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Ne méprise pas le don qui t'a été donné. Ne méprise pas le talent que tu as reçu de Dieu. Il faut mettre ça en valeur. Il faut mettre ça en valeur. Pour mettre en valeur, il est important de discerner, c'est-à-dire faire tout pour discerner vos dons dominants. Quel est le don dominant de tous les dons que nous avons énumérés tout à l'heure? Les dons spirituels. Quel est le don qui domine sur tous les autres? Vous devez pouvoir l'identifier. Les autres ne viennent qu'en complément. Et à des moments dans notre vie, on peut manifester pratiquement tous ces dons. Dépendamment de la circonstance dans laquelle est-ce que nous nous trouvons et de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il faut pouvoir discerner. On doit prendre le temps pour discerner notre don. Il faudra également développer ce don pour devenir aussi compétent que possible dans l'utilisation de ce don. Il faut le développer. Et aussi, il faut le déployer. C'est-à-dire saisir toutes les opportunités pour utiliser votre don. À chaque fois qu'une opportunité se présente, mettez à profit votre don. Utilisez le don que vous avez reçu. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez le fructifier, plus il va grandir et plus les autres seront bénis. N'enterre pas les talents que le Seigneur t'a donnés, mais mets ça en valeur parce que ça va t'aider pour oser recommencer. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais que tu rendes grâce au Seigneur. parce qu'il t'aime et parce qu'il a investi dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis en toi les ressources qui sont nécessaires. Dis-lui merci pour ces ressources. Si tout à l'heure tu as pu identifier tes dons, dis merci au Seigneur pour ça. Si tu as pu identifier tes talents, dis merci au Seigneur pour ces talents qu'il t'a accordés. Dis-lui merci Seigneur pour ces dons. Merci Seigneur pour ces talents. Regarde aussi, bien-aimé, quelles sont tes faiblesses. Quelles sont les choses devant lesquelles tu n'arrives pas à résister? Parle au Seigneur de ces choses. Si tout à l'heure tu l'as noté, parle de ces choses au Seigneur. Demande au Seigneur la force de triompher de ses faiblesses. Demande à la puissance du Saint-Esprit de t'aider à surmonter tous ces éléments qui te tirent vers le bas, qui t'empêchent d'atteindre le standard de Dieu dans ta vie. Qui t'empêchent de réaliser quoi que ce soit dans ta vie. Demande pardon au Seigneur et demande-lui la force pour te détacher de cette faiblesse. Peut-être c'est l'argent, peut-être c'est le sexe, peut-être c'est la nourriture et bien d'autres choses. Implore la grâce de Dieu et dis-lui Seigneur, libère-moi de ces faiblesses. Libère-moi de ces choses qui m'empêchent d'atteindre ton standard. Si tu connais tes talents et tes dons et que tu ne les as pas déployés pour le service de Dieu, demande pardon au Seigneur. Ne méprise pas le don que le Seigneur t'a fait. Si tu méprises ce don, tu n'es pas en train d'honorer le Seigneur. Demande pardon pour toutes les fois où le Seigneur t'a appelé à manifester un don et tu l'as fait. Les personnes qui étaient en face de toi sont rentrées sans avoir bénéficié de ce don. Implore la grâce de Dieu. Souviens-toi que le don que tu as reçu, ce n'est pas pour ton orgueil, mais c'est pour mettre au service et pour l'édification du peuple de Dieu. S'il est arrivé dans ta vie que tu t'enorgueillisses, implore la grâce de Dieu et demande pardon. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien fait de spécial pour obtenir ce don, mais il est gratuit. Bien-aimé, si jusqu'ici, tu ne connaissais pas quel don spirituel que le Seigneur t'avait accordé, demande-le-lui maintenant. Seigneur, je veux que tu me révèles mon don. Je suis fatigué d'être dans ta maison chaque jour sans pouvoir déployer ce don. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie que tu me révèles le don que tu as mis en moi pour que je te serve avec ce don. Demande au Seigneur ce don. Seigneur, c'est quoi le don que tu as mis en moi? Saint-Esprit. L'apôtre Paul pouvait dire, aspirez au don les meilleurs. Commence à demander au Seigneur de te revêtir de ses dons. De te revêtir de ses dons spirituels. Demande au Seigneur les meilleurs dons. Demande-lui les dons spirituels. Demande au Saint-Esprit de remplir, de te remplir de ses dons spirituels. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour la merveilleuse créature que tu es. Peut-être tu avais pensé à un moment que tu étais sans valeur. Te dis qu'il a investi dans ta vie. Dis Seigneur, merci pour la merveilleuse créature que je suis. Prends l'engagement devant le Seigneur de valoriser tout le potentiel qu'il a mis en toi. Prends cet engagement d'une manière sincère. Dis-lui, Seigneur, désormais je veux valoriser le don et le talent que tu as mis en moi. Je refuse d'être comme ce serviteur à qui tu as remis des talents et qui les a enterrés. Seigneur, je veux les faire fructifier. Je veux qu'ils multiplient. Je veux qu'ils prospèrent.
Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. La puissance de Dieu est là. Il est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le feu de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Je veux le louer, je veux le louer, je veux l'adorer. Je veux le louer pour la gloire de Dieu.
Seigneur, ton Saint-Esprit est présent. Qu'il sature nos vies de ta puissance. Seigneur, à chaque personne ici présente, tu as donné quelque chose de spécial. Parce que Seigneur, tu veux voir chacun d'entre nous à l'œuvre. Seigneur, que la puissance de ton Saint-Esprit envahisse nos cœurs, envahisse nos vies, et que les dons, Seigneur, de ta puissance soient déployés dans nos vies. Seigneur, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas te servir avec efficacité sans ce revêtement de la puissance du ciel. Nous avons besoin de ton revêtement, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta puissance. Que les cieux s'ouvrent et que, Seigneur, tu ouvres, déverses ces dons, Seigneur, notre Dieu, dans nos cœurs. Seigneur, notre Dieu, notre roi, manifeste-toi. Agis puissamment dans nos vies. Que les personnes ici présentes, Père éternel, qui étaient encore dans l'ignorance de leurs dons, Seigneur, entre en connaissance de ce don et commence à le déployer pour l'édification de ton peuple, pour leur épanouissement. Père, s'il te plaît, commence à révéler à chacun ici présent son appel, le ministère auquel tu l'appelles et le couloir dans lequel tu l'appelles à courir. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi à tes enfants. Seigneur, si hier nous avions méprisé l'investissement que tu as fait dans notre vie, parce que nous avons choisi de recommencer, Seigneur, nous te demandons de nous accorder ton pardon. Nous voulons désormais valoriser, Seigneur, ces talents que tu as investis dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, désormais mettre à profit ce que tu as investi dans nos vies.
Nous refusons, Père éternel, notre Dieu, d'enterrer les talents que tu as mis en nous. D'enterrer les dons que tu as mis en nous. Mais nous voulons, Seigneur, les déployer pour ta gloire seule. De te manifester puissamment. Merci d'agir, Seigneur, dans ta grâce. Merci, Seigneur, d'agir dans ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.